Hubert Kawissa, le meurtrier présumé de la famille Troadec, parle d'une pulsion soudaine la nuit du drame. Hubert Kawissa a décapité, démembré et découpé les quatre corps de sa propre famille pour en brûler une grande partie dans la chaudière à bois de sa ferme et ensuite se séparer du reste en le jetant par dizaines de morceaux dans la nature en espérant que les renards et les oiseaux fassent leur ouvrage et éliminent toute trace.
Bonsoir, de l'or pour un massacre. La quête d'un trésor caché est-elle à l'origine de l'extermination de toute une famille? Il y a 4 ans, les Troadec, les parents et leurs deux enfants disparaissaient de leur pavillon de la banlieue de Nantes. Des fragments de leur corps seront retrouvés quelques semaines plus tard à 250 km de chez eux. Une folie meurtrière animée par une haine féroce, ressassée depuis trop longtemps par un certain Hubert Kawissin, le beau-frère de la famille, accusé principal de cette tuerie. Il avancera comme mobile de ce quadruple crime, la jalousie, la haine et le fantasme d'un pactole convoité de lingots et de pièces d'or. Hubert Kawissin et son ex-compagne Lydie, la sœur de l'une des victimes, seront jugés dans 3 mois devant la cour d'assises de Loire-Atlantique, l'occasion pour la justice, espérons-le, de lever les derniers mystères qui entourent cette mécanique destructrice. C'est cette affaire donc, l'affaire Troadec, que nous allons retracer ce soir avec nos invités. Ensemble, nous allons tenter de répondre aux questions qui vont se poser aux jurés de la cour d'assises. Pourquoi Hubert Kawissin a-t-il en quelques minutes anéanti mari, femme et enfant? Quel est le secret de famille qui hantait les uns et les autres au point d'entraîner l'irréparable, un tragique bain de sang?
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir dans l'heure du crime, l'affaire Troadec. À l'hiver 2017, plus aucun membre de cette famille discrète qui habite Orvault, une commune au nord de Nantes, ne donne signe de vie. En ce mois de février 2017, Martine, la sœur de Brigitte Troadec, s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles. Martine habite le Finistère, à Landerneau, à 250 km de Nantes, là où vit Brigitte. La dernière fois qu'elle l'a eue au téléphone, c'était le 16 février. Tout allait bien, depuis, plus rien. Martine s'inquiète, hésite, puis décide d'alerter la police. Le 23 février, une patrouille se rend ainsi au numéro 24 de la rue d'Auteuil, une rue tranquille d'Orvault, commune limitrophe de Nantes. Les volets du pavillon blanc sont clos. La maison est déserte, aucun des occupants n'est présent. Il fait 8 degrés à l'intérieur et le chauffage est coupé. Dans les chambres, aucun drap ne recouvre les lits, le linge qui sèche dans le jardin n'a pas été ramassé, la vaisselle n'a pas été faite et dans le réfrigérateur, des sushis commandés le 16 février avant midi n'ont pas été consommés. Les brosses à dents manquent également dans la salle de bain. Autant d'indices qui semblent correspondre à un départ précipité ou à un drame. Il y a de nombreuses traces de sang dans la demeure, au rez-de-chaussée, à l'étage et dans l'escalier. Elles ont parfois été maladroitement essuyées. 4 personnes manquent à l'appel. Pascal Troadec, son épouse Brigitte, 49 ans tous les deux, et leurs enfants, Sébastien, 21 ans, et Charlotte, 18 ans. La police scientifique est rapidement à pied d'œuvre. Elle examine de près un téléphone portable, celui de Sébastien, le fils. Un appareil maculé de sang, le seul présent. Tous les autres téléphones ont été emportés, ainsi que les ordinateurs. Il ne reste sur place que les câbles. Les expertises ADN établissent que les traces de sang retrouvées sur place correspondent à celles des parents et du fils. Pour le moment, pas de traces de sang de Charlotte, la fille. Aucune arme n'est retrouvée dans la maison. Les voitures des parents, une Audi A4 et une BMW, sont stationnées dans la rue. Elles n'ont pas bougé. Il manque seulement à l'appel la Peugeot 308 de Sébastien. Impossible alors de ne pas songer à l'affaire du pont de Ligonnès, à Nantes, 6 ans auparavant. La tuerie de toute une famille, découverte tardivement. Le procureur Pierre Senès confirme que les Troadec sont introuvables, ils ont disparu. Le magistrat précise cependant qu'on peut presque parler de scène de crime. Des personnes, dit-il, ont perdu beaucoup de sang, des blessures qui doivent être très graves et qui ont sans doute entraîné la mort de certains des protagonistes. Les Troadec ne vivaient pas sous la menace. Pascal travaillait dans une fabrique d'enseignes lumineuses, son épouse au trésor public. Des enfants normalement scolarisés, il est établi que leurs téléphones se sont éteints les uns après les autres. Dans la nuit du 16 au 17 février, celui de Sébastien a été le dernier coupé à 3h12 du matin. Tout le monde a en tête l'affaire du pont de Ligonnès, mais dès le début, les enquêteurs s'intéressent de près à une piste, celle du fils de la famille, Sébastien. Sa voiture est absente et cet étudiant en BTS n'entretiendrait pas de très bons rapports avec son père. Dès le 24 février, au lendemain de la découverte de la maison vide de la rue d'Auteuil, les policiers diffusent une fiche de recherche concernant Sébastien, le fils de la famille, étudiant en système numérique au lycée Saint-Gabriel de Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée. Il pourrait être impliqué dans cette disparition. Sa personnalité est alors présentée comme tourmentée. Il avait une fois annoncé dans un blog qu'il se rendrait dans son école pour y tuer tout le monde à l'époque. La police alertée avait conclu à une provocation d'adolescent, une annonce de mauvais goût. Sa voiture est absente. Son téléphone a été le dernier coupé. Sébastien Troadec serait-il derrière cette série d'absences? Il serait en froid avec son père. Dans un tweet, n'avait-il pas écrit « De 20h à 2h du mat, mon père gueulait, j'arrêtais pas de lui dire de fermer sa gueule. » Simple spéculation, ceux qui connaissent bien le jeune garçon ne croient pas une seconde qu'il fasse de mal à qui que ce soit. Mercredi 1er mars, 6 jours après le démarrage de l'enquête, et alors que les investigations demeurent concentrées sur la maison d'Orvault, un indice refait surface à 300 km de Nantes, sur le territoire de la localité de Dirinon, dans le Finistère. Il s'agit d'un pantalon, un jean gris, retrouvé par une joggeuse dans un fossé, dans une poche. La carte vitale de Charlotte Troadec, sa carte bancaire et une carte de fidélité d'un grand magasin. Jeudi 2 mars, un ancien livre scolaire qui ressemble à un album de bande dessinée est découvert dans le même périmètre. Il porte une étiquette au nom de Pascal Troadec, le père de famille, au temps où il était en classe de 4e. Ce coin de campagne isolé et boisé est à quelques kilomètres seulement de Landerneau, le berceau de la famille Troadec. Et à nouveau, jeudi 2 mars, la voiture de Sébastien est signalé à Saint-Nazaire, à 55 km d'Orvault. Les Troadec n'ont aucune attache particulière dans cette ville. Le véhicule, une Peugeot 308, était stationné normalement sur un parking au centre-ville. Il apparaît que la Peugeot a été nettoyée. Il manque le tapis de coffre. Des traces de sang sont retrouvées. Une centaine de policiers sont mobilisés dans cette enquête. En l'absence de corps et de témoignages capital, le procureur n'exclut aucune piste. Il fait savoir que tous les scénarios sont envisageables. Il n'exclut pas une sinistre mise en scène pour semer le désordre dans les esprits. Il n'est pas impossible que quelqu'un se livre à un jeu morbide pour balader les enquêteurs, dit alors le magistrat. Et effectivement, malgré l'épais mystère qui entoure la disparition des Troadec, l'enquête va rapidement faire un grand pas en avant. Deux interpellations vont lever le voile sur l'affaire et faire apparaître un incroyable scénario. Le dimanche 5 mars, Hubert Caouissin, le beau-frère de Pascal Troadec et sa compagne Lydie Troadec, la sœur du père de famille disparu, sont placés en garde à vue à l'hôtel de police de Nantes. Le couple avait déjà été entendu pendant près de 21 heures, tout au début de l'affaire. Hubert Caouissin n'avait pas cherché à cacher son peu d'estime pour son beau-frère. Il avait assuré qu'il ne l'avait pas vu depuis longtemps, indiquant être fâché avec cette partie de la famille, une brouille causée par une sombre histoire d'argent et d'héritage. Le couple avait été relâché. Cette fois, l'ADN a parlé. Des traces génétiques d'Hubert Caouissin dans la maison d'Orvault sur un verre dans l'évier de la cuisine et dans la voiture de Sébastien ont été relevées. Pressé de questions, le beau-frère, 46 ans, finit cette fois par avouer. Il a tué, seul, tous les membres de la famille. Il décrit alors un sordide scénario. Il aurait fait disparaître les corps en les découpant et en les disséminant dans sa propriété. Le mobile du quadruple crime est une intense haine pour le couple Troadec. Un couple qui aurait détourné un trésor familial sous forme de lingots et de pièces d'or. Pascal Troadec se serait ainsi enrichi sans partager quoi que ce soit avec le reste de sa famille. Après 10 jours d'enquête intensive, le terrifiant scénario prend forme, celui d'une disparition qui cache en fait un massacre. Hubert Caouissin et Lydie Troadec, celle-ci nie toute participation au crime. Son ADN n'apparaît d'ailleurs ni dans le pavillon ni dans la voiture. Le couple est déféré au palais de justice, mis en examen et écroué. Après 3 jours de prison, Hubert Caouissin est conduit dans la ferme qu'il exploite dans le Finistère, la ferme du Stang à Pont-de-Buis, une propriété isolée dans un terrain marécageux, accidenté, broussailleux et mal entretenu. C'est là qu'il aurait démembré les corps avant d'en brûler une partie dans une chaudière et ensevelir les restes dans la nature avoisinante. Mercredi 8 mars, les enquêteurs annoncent ainsi la découverte de fragments de corps ainsi que des bijoux appartenant aux Troadec. Un légiste, un anthropologue, des CRS, 14 enquêteurs et 10 techniciens de police scientifique sont à pied d'œuvre. Le chef de la PJ de Nantes, Jean-René Personnic, affirme que les recherches vont prendre beaucoup de temps. Hubert Caouissin, amené sur place et vêtu d'un gilet pare-balles, se montre alors parfaitement coopératif. Dans toute cette affaire, l'argent, la jalousie, le désir de vengeance semblent constituer le mobile du massacre. Une histoire de lingots d'or qui aurait obsédé et rendu fou Hubert Caouissin au point de tuer 4 personnes. Pour expliquer son geste barbare, Hubert Caouissin raconte une rocambolesque histoire de lingots et de pièces d'or. Ce trésor, mis à l'abri pendant la guerre dans la maison des Troadec, aurait refait surface lors de travaux en 2006. Un trésor alors caché par le patriarche de la famille, Pierre Troadec, dans un endroit tenu secret. À sa mort, 3 ans plus tard, Pascal Troadec aurait appris où se trouvait le pactole, évalué selon la rumeur à des centaines de milliers, voire des millions d'euros. Il aurait fait main basse sur ce tas d'or sans le partager. Le tout aurait été placé dans des banques à l'étranger, même si cette histoire ne repose que sur des récits entendus dans le cercle familial. Hubert Caouissin ne digère pas l'attitude de son beau-frère. Il dit avoir été obsédé par ce vol au point de s'enfermer dans le tourment, de ressasser sa haine contre les profiteurs, le couple Troadec, Pascal et Brigitte, une famille riche qui voyage et se paye des voitures neuves. Caouissin, dit-il, voulait réparer cette injustice. Comme il va le raconter au juge d'instruction, Hubert Caouissin voulait se venger, mais sans intention de tuer toute la famille. Il aurait décidé d'aller fouiller la maison, dérober les ordinateurs, voler certains documents, afin de dénoncer les Troadec à l'administration fiscale, plus précisément auprès du TRACFIN, un organisme qui traque l'argent sale. Il aurait, pour cela, reconnu plusieurs fois les lieux. Le 16 février 2017, au soir, il serait rentré par une baie vitrée laissée entrouverte pour que le chat de la maison puisse passer, muni d'un stéthoscope pour éventuellement sonder les cloisons. Caouissin se serait caché dans la buanderie au rez-de-chaussée, puis aurait été surpris par Pascal et Sébastien Troadec. Une bagarre aurait alors éclaté. Dans la mêlée, Caouissin se serait emparé d'un pied de biche, frappé le père et le fils, puis la fille Charlotte, un seul coup mortel sur le crâne. Et enfin Brigitte, l'épouse, accourue sur place, qui aurait brièvement réussi à s'emparer du pied de biche avant de succomber à son tour. Lors de ses aveux en garde à vue et dans le bureau des juges, Hubert Caouissin va pleurer à plusieurs reprises. C'est pourtant très méthodiquement et avec une grande froideur qu'il découpera pendant plusieurs jours les corps de ses victimes, un travail de boucherie, alors que sa compagne Lydie s'occupait de leur fils de 8 ans, un petit garçon témoin malgré lui de ce crime épouvantable. Hubert Caouissin et Lydie Troadec comparaîtront devant une cour d'assises, procès prévu au mois de juin prochain. L'occasion de déterminer les rôles de chacun et de savoir quel déclic a pu entraîner un tel massacre. Du 21 juin au 9 juillet 2021 doit se tenir à Nantes, devant la cour d'assises de Loire-Atlantique, le procès d'Hubert Caouissin et de son ex-compagne Lydie Troadec. Pour le premier, auteur principal, l'enquête n'a pas permis de démontrer qu'il avait prémédité ses crimes. Il échappe donc à l'accusation d'assassinat. Les juges l'ont toutefois renvoyé pour meurtre suivi de crime au pluriel. Incrimination qui, comme l'assassinat, peut entraîner une peine de réclusion à perpétuité. Lydie Troadec, sœur de Pascal Troadec, est-elle accusée de recel de cadavres et modification des preuves d'un crime ? Les juges n'ont pas retenu sa complicité dans l'exécution des meurtres. Elle comparaîtra libre sous contrôle judiciaire. Elle encourt jusqu'à 3 ans de prison. Après toutes ces années, et en dépit des aveux circonstanciés de Hubert Caouissin, les proches des victimes restent convaincus que celui-ci n'a pas livré le scénario exact des parties civiles qui ne croient pas à la thèse d'une visite nocturne qui aurait tourné au carnage. Elles estiment que ces crimes avaient été parfaitement réfléchis, organisés et perpétrés. Les légistes disent que le meurtrier a fait un travail de quasi-professionnel, des corps découpés en tout petits morceaux, une annihilation complète, note un avocat. Les experts psychiatres et les psychologues ayant examiné Hubert Caouissin notent que l'accusé souffrait au moment des faits de paranoïa délirante, un délire de persécution, de nature d'ailleurs à altérer son discernement.